Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit Seigneur se faire une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez donné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation, le même Jésus-Christ notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pidis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Jérôme,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous en sommes maintenant dans Saint Matthieu, chapitre 4. On avance quand même. D'ici une dizaine d'années, peut-être on aura terminé les quatre évangiles, il ne faut pas se plaindre. Alors, sur le polycopier, donc dans le fichier Saint Matthieu, chapitre 1 à 5, on en est à la page 26. Alors, nous allons commencer maintenant à voir un petit peu toutes les préparations de notre Seigneur Jésus-Christ avant de vraiment commencer son apostolat avec ses apôtres. Notre Seigneur nous donne l'exemple des préparations nécessaires avant de se lancer dans la prédication. Il y a trois préparations nécessaires. Il y a le jeûne, la prière et l'aumône. Bon, notre Seigneur Jésus-Christ étant le roi du ciel et de la terre, et bien évidemment que tu n'es pas tenu à l'aumône comme nous, cependant on voit très bien notre Seigneur Jésus-Christ qui gardait constamment parmi les apôtres donc un certain nombre de un peu d'argent ou même de la nourriture pour donner aux pauvres. Régulièrement il demandait à Judas qui était en charge de la caisse d'aller donner quelque chose aux pauvres. Et là dans ce début de chapitre 4, Saint Matthieu va donner l'exemple du jeûne. Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors on peut d'abord se demander comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il pu tenir 40 jours et 40 nuits. Bon. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement homme. Bon. Les pères de l'Église pensent que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu faim pendant 40 jours et 40 nuits, mais qu'il a eu faim après, une fois qu'il ait terminé son jeûne. Bon, il est évident que ce sont des jeûnes extraordinaires qu'il nous faut admirer, pas forcément imiter, dans le sens que le jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas un jeûne ecclésiastique, hein, d'un repas par jour comme nous pour le carême, c'était un jeûne total. Total. Donc, on peut donc se poser la question, mais pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il voulu jeûner de cette façon? Eh bien, la réponse est toute simple. Notre Seigneur Jésus-Christ veut nous apprendre à résister aux tentations. Bon, en gros, il nous dit, si le diable est venu pour me tenter, moi qui suis Dieu, Dieu et homme, ne soyez pas surpris si le démon vient également vous tenter, alors que vous êtes de simples créatures. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va jeûner pendant 40 jours et le démon va venir pour tenter trois fois notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez ces trois tentations sur lesquelles les pères de l'Église vont longuement insister. Si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. Première tentation. Deuxième tentation. Alors le diable transporta dans la cité sainte et le plaça sur l'eau du temple et lui dit, si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas. Et troisième tentation, le diable transporta encore sur une montagne tout à fait élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je vous donnerai toutes ces choses si, vous prosternant, vous m'adorez. Nous allons voir que ces trois tentations de notre Seigneur Jésus-Christ correspondent à trois concupiscences. Donc, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas les concupiscences. On dit pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Bon. Et n'ayant pas le péché originel, il n'avait pas les conséquences du péché originel. C'est qu'il ne faut pas oublier ça. Les concupiscences ne sont qu'une conséquence du péché originel. Donc, la concupiscence, donc, c'est le désir déraisonnable des créatures du bon Dieu. Bon. Le concupiscible, c'est une puissance, un pouvoir de notre âme de désirer les choses. Donc Dieu avait, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, avait le concupiscible. Pourquoi ? Parce qu'il est homme. Donc il avait vraiment une âme humaine. Donc, ayant vraiment une âme humaine, notre Seigneur Jésus-Christ avait en lui les quatre puissances de toute âme humaine. Il avait l'intelligence, la volonté, le concupiscible et l'irascible. Bon. Mais par contre, n'ayant pas le péché originel, il n'avait pas les conséquences. Nous, on a les quatre puissances, l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible. Mais malheureusement, chacune de ces concupiscences, chacune de ces puissances est blessée par le péché originel. Donc on a les conséquences du péché originel, surtout sur, dans le domaine des trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de l'orgueil. Comme Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, sait très bien que les hommes vont surtout être tentés par là, eh bien, il va nous donner l'exemple de la lutte contre la tentation. Bon. Ensuite de ça, on peut rajouter que notre Seigneur Jésus-Christ va choisir pour moyen de lutte des choses qui vont être après utilisées pendant des siècles et des siècles dans l'Église pour lutter contre ces concupiscences. On voit très bien ça chez les pères de l'Église. Et surtout chez les anciens anachorètes d'Égypte. C'est en Haute-Égypte que les premiers moines sont apparus, avec saint Antoine du désert, saint Paul, premier ermite, saint Pacôme, et que les moines ont commencé leur vie hérémitique de façon extraordinaire dans ces régions-là. C'est arrivé en Europe plus tard, avec surtout l'influence de saint Benoît. Saint Benoît, donc là c'était en Italie et en France, mais la vie monastique avait déjà commencé à ce moment-là. Bon, certes, la vie monastique avait déjà un peu commencé aussi avec les Esséniens et même avec saint Jean-Baptiste. Voyez. Donc on voit très bien que les pères de l'Église, ou les premiers anachorètes, donc les premiers moines, vont utiliser les exemples donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et les premiers anachorètes insistaient beaucoup sur ces trois choses, le jeûne, l'aumône, la prière. Le jeûne, encore une fois, contre la concupiscence de la chair, l'aumône contre la concupiscence des yeux, la prière contre l'orgueil. Alors, il y a ici des phrases chez les pères de l'Église, c'est certainement un des passages, c'est pas le seul, un des passages sur lesquels il y a beaucoup de choses dans les pères de l'Église. J'ai dû faire un tri, tellement il y a de choses, sur les trois tentations. Comment, parce que non seulement, c'est-à-dire qu'il faut voir, non seulement notre Seigneur Jésus-Christ a accepté d'être tenté, ce qui est déjà ahurissant, mais il a accepté d'être touché par le démon. Parce que le démon l'a physiquement touché pour le mettre au sommet du temple. Alors comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a-t-il toléré en quelque sorte de se faire toucher par le démon? Surtout qu'en plus de ça, le démon, d'après les pères de l'Église, n'était pas encore sûr que notre Seigneur Jésus-Christ fût Dieu ou non. Il ne savait pas. Il suspectait, et comme il ignorait la naissance, le caractère miraculeux de l'Annonciation et de l'Incarnation, donc il n'était pas sûr qu'il y avait en face de lui le Fils de Dieu. Et vraisemblablement, c'est ce que pensent les pères, notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté par le démon parce que le démon a voulu vérifier si vraiment c'était un homme comme tout, un homme normal, je dirais, ou c'était une espèce de surhomme. Et les pères ont expliqué que justement il s'est arrêté à 40 jours, parce qu'on considérait à l'époque que 40 jours déjà de jeûne, c'était déjà à la limite du possible humainement parlant. Et que si donc il avait tenu plus de 40 jours en jeûne absolu, donc sans manger, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est resté sans boire aussi pendant 40 jours? Vraisemblablement non. Parce que s'il est possible dans certains cas, avec une résistance physique énorme, de rester 40 jours sans manger, par contre, il n'est pas possible pour un homme de rester 40 jours sans boire, c'est impossible.
Parce qu'il a dit, il eut faim, sinon il aurait dit, il eut faim et soif.
Oui, voilà, donc vraisemblablement, notre Seigneur Jésus-Christ est parti dans le désert, il a dû aller dans le désert, un endroit où il y avait de l'eau, une source, un puits artésien, pour pouvoir boire. Mais donc il a limité à 40 jours, justement à cause de ça. À la suite de ça, on voit très bien chez les premiers anachorètes ce désir d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui faisaient la même chose. Dieu doit vous dire qu'ils ont plus de mal que notre Seigneur. Hein, parce que notre Seigneur a une force de volonté extraordinaire. Et donc, pour y arriver, j'ai déjà cité plusieurs fois, on voit ça dans Cassien, il explique ça, dans ses conférences des pères du désert, il explique que certains des moines se faisaient enfermer dans une grotte, où il y avait un peu d'eau, l'eau c'est tout ce qu'il y avait, parce qu'ils ne pouvaient pas vivre sans eau, et ils se faisaient murer dans une grotte le mercredi des cendres, et les moines venaient le démurer le jour de Pâques. Et ils restaient sans manger, dans le noir absolu, seulement en buvant un peu d'eau pendant 40 jours. Bon, on les retrouvait morts, ou à moitié morts, ou pratiquement morts. Bon, ce genre de pénitence est à admirer, encore une fois, pas forcément à imiter. C'est pas parce que notre Seigneur Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours que ça veut dire qu'on va faire la même chose. Et à tel point que si quelqu'un, un de mes fidèles, me demandait, madame, monsieur l'abbé, je voudrais votre autorisation pour jeûner de façon absolue pendant 40 jours, je dirais bien sûr que non. Vous pouvez jeûner un quart pas par jour, mais pas 40 jours sans manger, parce que vous serez incapable d'accomplir votre devoir d'État si vous restez 40 jours sans manger. Alors donc, c'est un des passages sur lesquels les pères ont le plus parlé, justement, ces trois tentations. On sent qu'ils ont été très impressionnés par ces tentations de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, voilà ce que disent les pères, des phrases magnifiques. Après avoir été baptisé dans l'eau par Saint Jean-Baptiste, le Sauveur est conduit par l'Esprit dans le désert pour y être baptisé dans le feu de la tentation. Alors attention, il faut d'abord distinguer qu'il y a deux choses. Ici, ça semble un peu bizarre. L'Esprit et le diable. Donc, quand il est conduit par l'Esprit, ce n'est pas le mauvais esprit. Puisque dans le chapitre 4, verset 1, il est dit « Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable ». Donc manifestement, il y a deux personnes différentes là. Donc l'Esprit, c'est le bon esprit. Donc un ange envoyé par Dieu va prendre notre Seigneur Jésus-Christ pour conduire au désert. Et dans le désert, le tentateur, le diable, le démon, voyant ce jeûne extraordinaire de cet homme qui est en plein désert jeûne de cette façon, vient le tenter pour essayer de voir s'il est un simple homme ou si vraiment il est quelque chose de plus qu'un simple homme. Donc, le Sauveur est conduit par l'Esprit dans le désert pour y être baptisé dans le feu de la tentation. C'est l'enseignement de l'Église. Il y a ce texte magnifique qu'on trouve dans l'évangile des docteurs de l'Église. Il y a un texte de Saint Paul à Timothée qui dit « Celui qui veut, toute personne qui veut vivre pieusement subira la persécution. » À partir du moment où je veux suivre notre Seigneur Jésus-Christ, je vais être tenter de façon supplémentaire. Je suis obligé de dire ça quand je baptise les adultes. Je dis attention, n'oubliez pas qu'à partir du moment où vous allez devenir un baptisé, un catholique, eh bien vous allez avoir plus de tentations parce que le démon va se venger. Il va tout faire pour vous décourager d'une façon ou d'une autre. Donc on voit qu'il y a deux baptêmes dans l'esprit de Saint Jean-Baptiste. Le baptême de l'eau et le baptême de la tentation. Puisque un catholique est quelqu'un qui est baptisé dans l'eau, eh bien, il va être baptisé aussi dans le feu de la tentation. Qui que vous soyez, qui après le baptême vous trouvez en butte à de plus fortes tentations, ne vous en troublez point. Ce n'est pas pour rester oisif, mais pour combattre que Dieu nous a revêtus d'une armure divine. Il ne défend pas la tentation d'approcher de vous. D'ailleurs, on dit à chaque fois, on dit à notre Père, pardonnez-nous nos offenses. Non. Ne laissez pas succomber à la tentation et délivrez-nous du mal. On ne demande pas, bon Dieu, que la tentation saute. Ça, il faut bien comprendre ça parce que ça arrive tout le temps chez les fidèles. Ils ne se rendent pas compte. Ils vont avoir une tentation, alors ils se précipitent devant le sacrement et puis ils disent « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, enlève-moi cette tentation, enlève-moi cette tentation, enlève-moi cette tentation. » Et puis la tentation ne s'avancera pas. Ce n'est pas ça la prière du chrétien. La prière du chrétien, c'est « Mon Dieu, vous avez permis que je sois tenté. » S'il vous plaît, donnez-moi les grâces pour ne pas succomber. Pas pareil. C'est pour ça que dans notre Père, il n'est pas dit « Éloignez de moi la tentation, mais ne nous laissez pas succomber à la tentation. » Ce n'est pas du tout pareil. Alors, souvent, les gens viennent me voir en me disant « Monsieur l'abbé, c'est épouvantable. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai fait des neuvaines et des neuvaines pour que la tentation saute, elle n'a pas sauté. » Et je suis obligé de leur dire « Mais attendez, vous avez fait des neuvaines et des neuvaines, vous avez prié, vous avez fait pénitence, mais est-ce que vous êtes sûr que c'était la volonté du bon Dieu que la tentation sauta ?» Et il me dit « Ah, monsieur l'abbé, la tentation c'est toujours mauvais. » Mais non, la tentation n'est pas toujours mauvaise du tout. Il y a des tentations qui sont très bonnes, il y a des, Le bon Dieu a permis que certains saints deviennent, que certaines personnes deviennent des grands saints, justement, les tentations terribles. C'est le cas, par exemple, du Saint-Curé d'Ars. Bon, il n'y avait pas eu toutes ces tentations qui ont eu lieu avec le démon, il ne serait certainement pas devenu le Saint-Curé d'Ars aussi vite. Et donc, ce n'est pas la tentation, ça, il faut bien comprendre ça, parce que beaucoup, surtout des jeunes, sont troublés par ça. Ils disent, monsieur l'abbé, j'ai des tentations, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, il faut distinguer les tentations. Est-ce que ces tentations viennent, sont permises par Dieu, ou est-ce qu'elles viennent parce que je suis imprudent? Il faut une distinction à faire là. Si les tentations viennent d'une imprudence personnelle, je joue avec le feu. Rappelez-vous ce que disent les écritures saintes, celui qui aime le péché, il périra. D'accord? Celui qui aime le danger, il périra. Bon, il est évident que si je m'amuse à faire guili-guili sous le menton du démon, je vais me faire croquer. Ça, c'est à tous les coups. Hein? Donc, attention. Il y a des tentations de séduction, des tentations qui sont permises par le bon Dieu, qu'on appelle les tentations d'épreuve. Donc là, ce sont des tentations d'épreuve, ce n'est pas des tentations de séduction. Hein? Bon. Dans l'esprit du démon, oui, c'est une séduction, tentative de séduction, parce qu'il ne savait pas très bien à qui il avait affaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un péché d'avoir des tentations. Quand les gens me disent, monsieur l'abbé, j'ai des tentations, est-ce que vous avez accepté ces tentations? Ah ben non, j'ai lutté contre, j'ai fait pénitence, j'ai prié pour ne pas accepter ces tentations, et grâce à Dieu, je ne les ai pas acceptées. Eh bien, non seulement vous n'avez pas péché, mais vous avez augmenté la grâce sanctifiante dans votre cœur. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc, c'est ça que, encore une fois, le Notre Père ne dit pas, enlevez-moi la tentation, mais ne nous laissez pas succomber. Alors, il va donner, oui?
Parce que la grâce ne détruit pas la nature.
Exactement. Exactement. Donc, le bon Dieu a promis qu'on ne serait jamais tenté au-delà de nos forces. Mais cette promesse n'est valable que si je ne joue pas avec le démon. Si je joue avec le démon, à ce moment, je tombe dans un péché de présomption. Et si je tombe dans un péché de présomption, la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ ne vaut plus. Il faut bien comprendre ça. Le bon Dieu a promis qu'on ne serait pas tenté au-delà de nos forces, à condition que je sois prudent pour ne pas jouer avec la tentation. Si je vais chercher la tentation, le bon Dieu ne me donnera pas les grâces. On peut expliquer ça aussi avec ce qui se passait au début de l'histoire de l'Église, avec les grandes persécutions. Donc, à partir de 67, la première persécution avec Néron jusqu'à Dioclétien. En 313, l'Église avait toujours demandé la même prudence au niveau des martyrs, en disant, vous n'avez pas le droit d'aller rechercher le martyr. C'est-à-dire, en période de persécution, nous vous demandons de vous cacher tous. Donc les catholiques devaient se cacher, ils venaient assister à la messe à 2h du matin dans les catacombes, d'accord? Et leurs évêques leur disaient, si vous êtes pris, le bon Dieu vous donnera les grâces d'État pour accepter, pour tenir bon avec des tortures épouvantables. Mais ne cherchez pas à être pris, parce qu'à ce moment-là, c'est un péché de présomption. Et du coup, Dieu n'est pas tenu de vous donner les grâces dont vous avez besoin. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. On voit certaines personnes qui ont été imprudentes, qui ont voulu jouer avec la tentation, qui sont allées littéralement se jeter dans les bras des persécuteurs et qui ont apostasié sous les tortures, quoi. D'accord? Alors, ici, donc, il y a 5 points qui sont expliqués à partir des pères, donc, je sais pas, chez les pères de l'Église, qui expliquent pourquoi les tentations. D'abord, premier point, pour nous apprendre, premièrement, que vous êtes devenu beaucoup plus fort par le baptême. Donc le baptême donne une force supérieure pour résister à la tentation. Deuxièmement, pour que la grandeur des grâces que vous avez reçues ne soit pas pour vous un principe d'orgueil. Donc les tentations maintiennent dans l'humilité. Troisièmement, pour faire connaître par expérience au démon que vous avez rompu entièrement avec lui. Donc le démon tente des gens qui ne lui appartiennent pas. Le démon ne va pas les tenter des gens qui font partie de son armée, c'est évident. Du bon sens élémentaire. D'ailleurs, on le voit très bien dans le monde moderne, quand vous avez devant vous des gens qui vivent dans le péché jusqu'au cou, leur demander est-ce qu'ils ont des tentations. Ben non, ils n'ont pas de tentations, s'ils ont tout ce qu'ils veulent. Bon, au contraire, les catholiques, surtout les nouveaux baptisés, ils ont d'énormes tentations souvent, à cause du monde dans lequel on est obligé de vivre, précisément parce que le bon Dieu permet que nous soyons dans un monde pourri et que donc le démon va se déchaîner pour essayer de faire apostasier les catholiques. Il ne faut pas oublier qu'au début de l'histoire de l'Église, le démon a travaillé surtout avec des persécutions physiques, mais ça n'a pas très bien marché. parce qu'il y a eu quelques apostasies, mais très peu nombreuses finalement. Par contre, il y a eu des 14 millions de martyrs qui sont morts par amour pour le bon Dieu, des tortures effroyables. Et donc, il y a 14 millions de personnes qui sont montées droit au ciel. Hein. Le rôle du démon, c'est quand même pas d'envoyer les gens au ciel. Donc, il est évident qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, le démon ne travaille plus avec des persécutions physiques, parce que c'est pas nécessaire. Par contre, il travaille avec des persécutions morales, qui sont d'un certain côté plus lourd à porter. Persécution morale, ça veut dire tentation constante à cause de... T'es obligé de vivre constamment dans une poubelle, en gros, c'est ça. Étant obligé de vivre constamment dans une poubelle, on est exposé à des tentations tout le temps, une espèce de lavage de cerveau systématique. C'est pour ça que le démon utilise maintenant de plus en plus tous les écrans, même plus trop la télévision a dépassé depuis longtemps, maintenant par les écrans d'ordinateur, etc. Et parfois les gens me demandent, est-ce que vous avez la télévision? Je dis, mais ce que non, j'ai pas la télévision, pas question que je l'ai. Ah mais pourquoi? Mais parce que je ne veux pas, j'ai horreur d'être comme lave la cervelle. J'ai horreur comme lave la cerveille, il y a suffisamment de tentations dans le monde qui viennent tout seul, c'est pas la peine d'en chercher d'autres, d'accord? Donc, quatrième point, pour augmenter la force dont vous êtes revêtu, disent les pères. C'est-à-dire que la tentation va renforcer la vertu de force. Cinquièmement, pour vous donner une juste idée du trésor qui vous est confié, car le démon ne viendrait pas vous tenter s'il ne vous voyait élevé à une plus grande dignité. C'est une raison magnifique des pères. Le démon ne viendrait pas vous tenter s'il ne vous voyait élevé à une plus grande dignité. Le démon sait... Si vous voulez, à une jalousie constante, une haine constante contre les âmes qui montent au ciel, parce que ces âmes qui montent au ciel prennent la place du démon. Et donc le démon fait tout pour empêcher les gens d'aller au ciel. Il y a une deuxième raison, c'est que le nombre des places au ciel est limité par le nombre des anges qui ont suivi Lucifer. Et la plupart des pères de l'Église pensent que la fin du monde arrivera, justement, donc la fin du pouvoir du démon, la fin du monde arrivera au moment où la dernière place au ciel sera occupé par la dernière âme d'un être humain et qui monte au ciel. Et à ce moment-là, ça sera la fin du monde. Et donc, il n'y aura plus de pouvoir du démon, puisque le démon va perdre définitivement son pouvoir. À ce moment-là, il sera renvoyé, enchaîné en enfer pour toute l'éternité, il ne pourra plus sortir. Alors, il faut bien comprendre cela. Donc, ne pas croire que la tentation est quelque chose de pécamineux. Ce n'est pas parce qu'on a des tentations que ça veut dire qu'on est un tel péché mortel. La preuve, c'est quand au Seigneur Jésus-Christ était tenté. Non. Par contre, il faut quand même vérifier que la tentation ne vient pas dans mon cœur à cause parce que je garde une occasion prochaine volontaire de péché grave. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on fait au confessionnal quand on a devant nous des jeunes, par exemple, qui nous disent, Monsieur l'abbé, j'ai une énorme tentation contre, je sais pas quoi, la foi, l'espérance, la charité, la pureté. On essaie d'abord de voir, est-ce que cet homme, cette âme qui est devant moi au confessionnal, est-ce qu'elle joue avec le feu? Qui expliquerait toutes ces tentations. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, quand elle joue avec le feu. Dans la tentation contre la foi, vous savez, j'ai une terrible tentation contre la foi. Je lui ai demandé, est-ce que vous ne lisez pas par hasard un livre, une revue qui vous tourne vers ces péchés contre la foi? Et puis, parfois, les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, ben oui, moi je me suis commencé à me lancer dans l'ésotérisme, je trouve ça très intéressant, j'ai commencé à lire des livres d'ésotériques. Et oh là là, c'est là où la faille. C'est là où la faille. Ah, mais c'est pour savoir comment le démon travaille avec nous. Oui, mais vous allez aussi vite apprendre comment le démon travaille avec vous au niveau des tentations. Vous allez me brûler ce bouquin.
Il faut être bien affermi, sinon.
Ouais, il faut faire très très attention. Et ça, il faut que les traditionnalistes fassent attention parce que c'est un peu une tendance des jeunes. Hein. Pas les jeunes de 14-15 ans, mais les jeunes de 19-20 ans, ils ont un peu cette tendance-là à savoir un petit peu comment se passent toutes les messes noires, et tout ça, une espèce de curiosité morbide qui est très dangereuse là. Parce que là, on joue vraiment avec le feu, ça peut faire très très mal. Voyez. Alors avançons, dans le deuxième paragraphe de la page 26. La tentation nous attaque de trois manières, disent les pères, par suggestion, délectation, consentement. Bon. Notez la hiérarchie. D'abord une suggestion qui vient du démon. Puis une délectation, le démon peut nous faire sentir certaines choses, mais le consentement arrive à la fin. Il faut bien me faire comprendre que tant qu'il n'y a pas consentement, il n'y a pas, péché grave. Souvent, les gens ont du mal à comprendre ça au niveau des mauvaises pensées. Si j'ai une mauvaise pensée, est-ce que je peux communier? Attendez, mais il y a mauvaise pensée. Monsieur l'abbé, j'étais à pied le long de la. Bon, j'ai garé ma voiture, je suis venu à l'église pour pouvoir aller à la messe en semaine, et puis il y avait une jolie fille qui était de l'autre sur le trottoir, et je me suis dit, oh, elle est rudement chouette cette fille. Vous savez, je n'ose pas communier. Non, mais attendez. Est-ce que c'est un péché de dire cette fille est rudement chouette? Non, ce n'est pas un péché. Bon, vous l'avez pas fait exprès, vous n'êtes pas regardé cette fille pendant 10 minutes pour vous exciter, pas du tout. Elle est mignonne, elle est mignonne, qu'est-ce que j'y fasse? Vous n'allez pas vous dire, elle est moche, elle est horriblement moche, alors qu'elle est mignonne comme un cœur.
On va pas lui mettre
Exactement.
des trucs.
Donc, c'est pas un péché. Et vous avez consenti? Ben non, j'ai absolument pas consenti. Inconvénient de tranquillité. Mais je l'avais, la tentation, j'ai joué un petit peu avec, et puis je l'ai rejeté. Je n'ai rien à péché réel. Et pour qu'il y ait péché grave, non, il ne faut pas oublier que pour péché grave, qu'un péché soit grave, il y a trois conditions quand même. Il faut la connaître, il faut la matière grave, il faut l'acceptation, comment on appelle ça,
Consentement.
le consentement, et la matière grave, connaissance, consentement. C'est-à-dire, l'action que je vais commettre, ou l'action qui m'est suggérée actuellement par le démon, est chose grave. Ce n'est pas un petit détail, c'est un gros truc. Bon, matière grave. Deuxièmement, je sais que cette action qui m'est suggérée par le démon m'est interdite par la loi divine sous peine de péché grave, connaissance. Ça fait rien, je m'en fiche, je le fais quand même, consentement. Donc au premier degré, il n'y a pas faute grave. Deuxième degré, il n'y a pas faute grave. Au troisième degré, il y a faute grave. D'accord? Donc, il faut faire attention, il n'y a pas toujours faute grave d'avoir des péchés, d'avoir des mauvaises pensées. Alors, au niveau des mauvaises pensées, si vous avez lutté contre la mauvaise pensée, il n'y a aucune faute. Si vous avez joué un petit peu avec la mauvaise pensée avant de la rejeter, en général, il y a faute vénielle. Si vous l'acceptez complètement, même s'il n'y a pas eu d'action, donc vous avez accepté complètement la mauvaise pensée, il y a déjà faute grave. Alors voilà ce que nous disent les pères. Lorsque nous sommes tentés, nous disent-ils, nous tombons presque toujours dans le consentement ou dans la délectation parce que nous tirons notre origine du péché de la chair et que nous portons en nous-mêmes la cause des combats que nous avons à soutenir. Tandis que le Dieu incarné dans le sein d'une vierge, étant venu dans le monde sans péché, ne portait en lui aucun principe de lutte intérieure. Aussi disons-nous que cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho tomba entre les mains de voleurs. Cet homme représentait Adam qui fut vaincu par les démons. Il convenait donc que le démon fût vaincu à son tour par le Christ dans ce même endroit où existait une figure de son triomphe sur l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, en fin de compte, était sur la même route sur laquelle était dans l'histoire l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Notre Seigneur Jésus-Christ était sur ce chemin qui allait de Jérusalem à Jéricho. Et donc, il vient rattraper en quelque sorte les désordres de l'humanité. L'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, on verra ça à fond au moment où ça sera dans le texte de l'évangile qu'on étudie, mais l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam. Jérusalem, c'est le au sens allégorique, Jérusalem, c'est le paradis, au sens analogique, c'est le paradis. Donc, Jéricho, au contraire, c'est le monde. Pourquoi? Les pères disent que Jéricho représente le monde à cause du fait que le signe de la ville de Jéricho, c'était la lune. Bon, la lune est le principe même des choses qui changent, à cause du fait que la lune apparemment change toujours dans le ciel. Il y a un quart de lune, une demi-lune, une pleine lune, il n'y avait pas de lune du tout. Bon, donc, l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est deux choses pour les pères de l'Église. D'abord, c'est Adam, et deuxièmement, c'est aussi le pécheur. Pécheur qui sort du confessionnal, Jérusalem, et qui va à Jéricho, c'est-à-dire qui retombe dans les péchés du monde. D'accord? Bon. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, disent les pères, a voulu lutter contre les tentations du démon au même endroit. Alors, ensuite, il y a des phrases ici qui viennent des pères de l'Église. Je vais chercher surtout dans Saint Thomas d'Aquin ou dans Cornelius à Lapide. Donc, notre Seigneur ne prolongea pas son jeûne, je vous l'ai déjà dit ça, au-delà du jeûne de Moïse et d'Élie. C'est que Moïse et Élie avaient déjà fait des jeûnes de 40 jours. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ a repris le chiffre 40. Bon. Pour ne pas douter de la vérité de son incarnation. Pourquoi 40? Parce que 40 est un chiffre symbolique. C'est 10 multiplié par 4. Donc, les 10, 10, c'est le décalogue, les 10 commandements. 4, c'est les 4 évangiles. Donc, le chrétien, si vous voulez, c'est celui qui suit l'enseignement des quatre évangiles, et qui, à partir de ça, va être fidèle au commandement. C'est marqué juste après. Le nombre 40, ça c'est Saint-Augustin. Hein. Je vous l'histoire des mathématiques, c'est Saint-Augustin qui est là. Le nombre 40 est ici consacré parce qu'il est formé par le nombre 10 répété 4 fois, que la perfection du décalogue trouve son accomplissement dans les 4 livres du Saint-Évangile. Donc le chiffre 4 représente les évangiles, le chiffre 10 représente le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. C'est parce que notre corps est composé de 4 éléments que la concupiscence dont il est la source nous met en opposition avec les 10 commandements de Dieu. Ainsi donc, le nombre des gémissements et de la douleur est figuré par le nombre 40 et le nombre de la félicité et de la joie par le nombre 50 qui s'écoule entre la fête de Pâques et celle de la Pentecôte. D'accord ? Donc, Pâques, la Pentecôte, c'est 40 jours. Et, Pâques à l'Ascension, c'est 40 jours. Et ensuite, de l'Ascension à la Pentecôte, il y a 10 jours de plus. Donc, Pâques à la Pentecôte, c'est 50 jours.
D'ailleurs,
Pentas,
ça veut dire
5. Ça, c'est du grec. Oh,
Oui. Pentecôte, c'est que Pente, ça vient de la racine, oui, grec,
5. Je pratiquement pas le grec, moi. Ça me manque, mais c'est comme ça. Ouais. J'avais du mal avec mon latin, mais je mets au grec. Je suis pas assez intelligent pour ça. Donc, le
Pentagone, par exemple.
Oui, c'est ça, qui a 5 côtés. Donc, il eut faim pour ne pas rendre la divinité trop évidente. Hein. Encore une fois, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu cacher ses pouvoirs divins aux démons. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien que son Père avait décidé pour lui qu'il devait mourir sur la croix. Et donc, il fallait laisser une certaine liberté aux démons pour qu'ils puissent pousser les Juifs à le crucifier, à crucifier notre Seigneur Jésus-Christ. Si le démon avait compris que notre Seigneur Jésus-Christ était fils de Dieu, et que par ses souffrances sur la croix, il allait racheter le genre humain, il ne l'aurait jamais fait crucifier.
Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en vouloir, entre guillemets, aux Juifs, parce que s'il ne l'avait pas fait...
Les Juifs sont des instruments, de la même façon que tous les persécuteurs sont des instruments. S'il n'y a pas eu de persécuteur, il n'y a pas eu de martyr. Ouais. Et c'est évident. Hein. Bon, ceci dit, ça n'enlève pas la responsabilité de chacun d'entre nous. Hein. C'est pareil pour le péché. Ouais. Il eut donc faim pour ne pas rendre la divinité trop évidente, car le démon aurait ainsi perdu tout espoir de le tenter et lui-même l'occasion de triompher. C'est pour ça qu'il dit « Après cela, il eut faim ». Donc encore une fois, c'est ce que disent la plupart des pères. Et en fin de compte, de façon quasi miraculeuse, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu faim pendant les 40 jours. Au moment où il a décidé d'arrêter son jeûne, ayant atteint le jeûne de Moïse et d'Élie, donc il n'a pas voulu dépasser en jour le nombre de jeûnes, de jours de jeûne de Moïse et d'Élie, pour bien montrer que le jeûne de Moïse et le jeûne d'Élie annonçaient le jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on reprend dans le carême les 40 jours de jeûne. Bon, sauf la grande différence, c'est qu'évidemment au carême, on n'a pas un jeûne naturel total comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien à manger pendant 40 jours parce que l'Église sait très bien que les catholiques seraient incapables de faire leur devoir d'État. Mais on voit très bien, d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'islam. Dans l'islam avec le ramadan, je ne sais pas combien de temps dure le ramadan, j'ai oublié, mais pendant le ramadan des musulmans, c'est uniquement...
À 28 jours.
Je sais plus. Mais c'est uniquement un jeûne diurne, pas un jeûne nocturne. Donc, dès que le soleil apparaît, hop, il faut jeûner. Par contre, le jeûne va reprendre au coucher du soleil. Au moment où le muezzin va de nouveau faire sa prière à faux Dieu pour annoncer la fin du jour de jeûne. Et à ce moment-là, c'est la nuit, du coup, ils s'en mettent plein la panse, comment dire. C'est vraiment l'hypocrisie. Et c'est typique dans les pays musulmans. Moi, j'ai vécu en pays musulman comme gamin, ça m'avait frappé. On voit très bien pendant le ramadan des juifs, les hommes, ils étaient sous la tonnelle ou dans la maison en train de faire la sieste, tout simplement parce que ils pouvaient pas manger, donc ils pouvaient pas travailler. D'accord.
Juste une question, parce qu'on parle souvent du ramadan et du jeûne, quand même pour les chrétiens et les musulmans. Ouais. Les juifs, ils n'ont pas une période de 40 jours aussi à...
Alors là, je ne sais pas, de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a un jeûne pour les juifs? Bonne question. Je ne sais pas. Ouais. Je pense qu'il y a certainement quelque chose. Puisque Il y avait des pénitences de ce genre aussi dans l'Ancien Testament des Juifs. Maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment un jeûne de 40 jours? Je ne sais pas.
Alors, ils l'ont peut-être fait, de toute façon.
Je ne sais pas, je ne crois pas. On pense qu'il y a des périodes de jeûne, certainement, mais est-ce que c'est des jeûnes de 40 jours? Je ne sais pas. Donc, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va cacher en quelque sorte sa divinité pour ne pas faire comprendre au démon qu'il est fils de Dieu. Alors, maintenant, voyons un petit peu le sens moral, qu'on appelle le sens anthropologique, c'est-à-dire une page de l'Écriture sainte, je vous rappelle ce que c'est que le sens anthropologique, j'ai déjà expliqué. Donc, c'est ce que nous devons faire, c'est un exemple pour nous. Donc, voilà ce que dit ici saint Ambroise. Suivons le Christ loin du luxe, de la sensualité, vivant sur les sols arides de sa vie de jeûne. Le Christ ne sera pas trouvé sur les places de marché, ni sur les larges avenues. Ne cherchons pas le Christ là où il ne peut pas être trouvé. Le Christ n'est pas dans les tribunaux de justice, car le Christ est paix. Dans les tribunaux sont les procès. Le Christ est justice, sur les places et l'iniquité. Le Christ est charité. Dans le forum règne la détraction, la fraude et la perfidie. Le Christ est fidélité. Donc on retrouve ici certaines des grandes vertus de notre Seigneur, la paix, la justice, la charité et la fidélité. Notre Seigneur Jésus-Christ est le juge suprême, donc il va surtout manifester ses vertus en tant qu'homme qui est en même temps uni à une divinité, et donc en tant qu'homme, il est grand prêtre et donc juge suprême de toute l'humanité. Alors, autre paragraphe, donc trois paragraphes avant la fin de la page 26. Le Saint-Esprit, par ses tentations, veut expliquer aux chrétiens, baptisés et convertis à Dieu, que dans l'idéal de la vie religieuse, ils devront se fortifier contre les tentations qui vont de façon certaine les attaquer. Personne ne peut atteindre le royaume de Dieu sans passer par les tentations. Donc ceci doit être clair pour nous. Soyons pas surpris, à partir du moment où on veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura des tentations. Moi je dis maintenant systématiquement, quand je baptise les adultes, pas les bébés, c'est pas nécessaire. Mais pour les adultes, je les préviens, attention, vous voulez être baptisé, mais sachez que vous allez avoir beaucoup plus de tentations. Parce que parfois on a une fausse idée, les gens disent c'est bien, vous savez, je vais être fils de Dieu par le baptême. Du coup, ben, le démon, il n'osera plus m'approcher, je vais avoir la paix. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. C'est en fait l'inverse qui va se passer. C'est que le démon va se venger précisément sur les enfants de lumière. Il ne va pas se venger sur ses propres enfants. Sur ceux qui sont dans l'armée du démon, il va se venger sur l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça c'est une phrase importante. Personne ne peut donc atteindre le royaume de Dieu sans passer par les tentations. Rappelez-vous saint Paul à Timothée. Celui qui veut vivre, toute personne qui veut vivre pieusement subira la persécution. Le Saint-Esprit nous enseigne donc qu'aucune tentation ne peut être vaincue sans la grâce, la prière et le jeûne, répétant les paroles des Écritures, des commandements et des promesses divines. Bon, cependant, attention, on ne joue pas avec le démon. Si je commence à vouloir jouer avec le démon, évidemment, à ce moment-là, Bon Dieu n'est plus tenu de m'aider. Si je commence à être extrêmement imprudent dans mes choix de vie, parce que je garde l'occasion prochaine volontaire de péché mortel, ou tout simplement parce que je joue avec les démons, de toute façon, et bien à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si j'aurai des tentations. Les tentations reviennent toutes seules, c'est pas la peine d'aller en chercher, comme on dit. Alors, le Christ, qui fut souvent tenté par Satan, nous montre donc qu'il est un véritable homme comme nous. Notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement homme. On voit très bien que le Seigneur insiste là-dessus, les évangélistes aussi avec raison, pour bien montrer la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment Dieu, vraiment homme. Ceci pour lutter contre les premières hérésies. N'oublions pas que les premières hérésies, les hérésies gnostiques, puis après les premières hérésies docétistes qui niaient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui niaient, pardon, excusez-moi, son humanité, puis les hérésies ariennes qui niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vont arriver très vite, dès la fin du 1er siècle. Et donc, les premières hérésies ont commencé même alors que Saint Jean est encore vivant. Donc, on voit très bien que le démon va travailler ou sur l'humanité ou sur la divinité. Parce que c'est le mystère central de toute notre foi catholique, il est là, c'est l'union de la double nature dans une seule personne. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment deuxième personne de la Sainte Trinité, donc il est Dieu, Dieu, complètement Dieu, si vous voulez, mais en même temps, par le fait qu'il vient du sein de notre Seigneur Vierge Marie, il est véritablement homme. Donc il n'y a pas un espace, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une espèce de mélange entre la divinité et l'humanité. L'humanité et la divinité entre notre Seigneur Jésus-Christ sont parfaites. C'est-à-dire la divinité n'est pas mélangée à la divinité n'est pas mélangée à l'humanité, l'humanité n'est pas mélangée à la divinité. Les deux choses sont parallèles en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est homme et Dieu. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a une double intelligence, une double volonté. Il a une intelligence humaine, une intelligence divine, une volonté humaine, une volonté divine, avec évidemment son intelligence humaine parfaitement soumise à son intelligence divine et sa volonté humaine parfaitement soumise à la volonté divine. Et on verra que les premières grandes hérésies, en fait, sont des hérésies, justement, qui vont nier la double volonté ou la double intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ça tout à fait au début de l'histoire de l'Église, dès le premier siècle. À propos de la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment Dieu en deux natures, une nature divine, une nature humaine, ce qu'on appelle le monophysisme, le monothélisme. C'est les premières hérésies du premier siècle, dès la fin du premier siècle, monothélisme et monophysisme, c'était des hérésies qui étaient très dangereuses parce qu'elles niaient la double nature, la double intelligence ou la double volonté chez notre Seigneur Jésus-Christ. Donc niant la double intelligence, ça semble quelque chose de pas très important. Nous niant la double intelligence à notre Seigneur Jésus-Christ, une intelligence humaine et une intelligence divine, conséquemment, on niait la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'était plus vraiment Dieu et vraiment homme. Parce que beaucoup de gens pensaient, c'était les premières hérésies sur le sujet, que l'intelligence humaine avait été complètement englobée dans l'intelligence divine. Donc il n'y avait plus qu'une seule intelligence entre le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'en quelque sorte, sa nature humaine était totalement, en quelque sorte, digérée, englobée par l'intelligence divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les premiers hérésies dans ce domaine, on appelle les hérésies docétistes, justement, disaient que notre Seigneur Jésus-Christ, étant pleinement Dieu, Dieu étant largement au-dessus de l'homme, ben, l'humanité disparaissait. Et donc l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ n'était qu'extérieure, un peu comme un corps d'un fantôme. Et donc, selon les docétistes, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ n'était qu'une apparence. Le Seigneur n'a pas vraiment souffert pendant la passion. Alors, les conséquences sont énormes. Ça veut dire en gros que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fichu de nous, quoi. Il s'est fichu de nous, il nous a fait croire qu'il souffrait, alors qu'en fait il ne souffrait pas.
Et c'est quand que la question a été tranchée.
Ça a été tranché au cours des premiers, c'est tout les premiers conciles œcuméniques. Ça a été réglé surtout avec le concile de Nicée. Le premier concile de Nicée, justement, qui a réglé la question de l'arianisme. Donc c'était très important, justement, et c'est toujours important d'avoir les idées parfaitement claires sur ce domaine. Parce que les docétistes avaient fini par dire notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vraiment homme. Oui, donc il faut s'accrocher à ça. Notre Seigneur est vraiment homme et vraiment Dieu. Alors d'où vient la difficulté? La difficulté, c'était que, évidemment, c'était un argument très fort. Les monothélistes ou les monophysistes ou les docétistes disaient, mais notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu. S'il est Dieu, il a donc la vision béatifique constamment puisqu'il est Dieu. Comment est-il possible pour notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, d'avoir la vision béatifique et en même temps de souffrir la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité? C'est deux choses qui sont contradictoires. Et en fait, là, il y a un mystère. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ, même dans ce moment où il souffrait le martyre sous la croix, avait la vision béatifique. Mais il avait la vision béatifique, si vous voulez, sur son âme. Ton âme était dans la vision béatifique de Dieu, ton âme humaine, parce qu'il n'y a pas d'âme divine. Dans son âme humaine, notre Seigneur Jésus-Christ avait la vision béatifique, mais cette vision béatifique n'empêchait pas l'acceptation des souffrances. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ non seulement a souffert comme un véritable homme, mais a souffert plus qu'un véritable homme, parce que notre Seigneur Jésus-Christ avait une chair humaine beaucoup plus sensible que la nôtre. Une véritable chair humaine, mais qui n'avait pas du tout été Raffermé par le péché en quelque sorte, et donc il avait une sensibilité beaucoup plus forte que la nôtre. C'est pour ça qu'il faut avoir les idées très claires là-dessus. Le mystère central de la foi catholique, la double nature entre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, vraiment homme. Mais c'est ce point qui est de plus en plus lié ouvertement et officiellement dans l'Église de Vatican II. Croit manifestement plus à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit parce que quand vous demandez à un prêtre moderne est-ce que vous croyez encore à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, il va vous dire il répond pas vraiment à la question. Le dire un oui franc, ce qu'il devrait répondre, on dit oui, vous savez, c'est un peu des détails, et puis il était fils de Dieu, quoi. Oui, mais fils de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu ou non? Et les protestants, c'est pareil, hein. Poser la question, est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu? Ah oui, pas de problème, est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Voilà, et plus personne ne répond, parce que justement, il joue sur les mots.
Robert Bobbio qui a dit, vous irez au paradis seulement si vous avez vraiment bonne conscience.
Voilà, à ce moment-là, c'est la liberté de conscience.
Voilà, c'est ça.
Et donc, une bonne femme qui me dit, monsieur, je viens de trucider mon bébé par avortement, mais ma conscience me dit que c'est OK. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème, vous êtes au paradis quand même, parce que vous avez bonne conscience. On voit où comme ça? C'est pour ça que l'Église a toujours condamné la liberté de conscience. Alors, donc, aucune tentation ne peut être vaincue sans la grâce du bon Dieu ne détruit pas la nature. Attention, la grâce du bon Dieu ne détruit pas la nature, mais l'élève en quelque sorte. Le Christ, qui fait souvent tenter par Satan, nous montre qu'il est un véritable homme comme nous, disent les pères, ses frères. Homme comme nous, ses frères, ainsi que l'enseigne l'apôtre Paul. Donc, c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Vous trouvez ça tout de suite, parce que j'ai oublié de préparer le texte. L'Épître aux Hébreux est certainement une des épîtres de Saint Paul qui explique le mieux l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit très bien le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Voilà ce que dit saint Paul. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre excellent qui a pénétré les cieux, demeurons fermes dans la profession de notre foi. Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos infirmités. Pour nous ressembler, il les a tout éprouvés, hormis le péché. Donc il est vraiment homme. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au temps opportun. La phrase clé, elle est là, c'est celle-ci. Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant compatir à nos infirmités. Pour nous ressembler, il les a tout éprouvés, hormis le péché. Comme il est devenu homme, il a voulu avoir toutes les conséquences de l'humanité, sauf bien sûr le péché. Alors, que ceux donc qui se préparent à devenir docteurs, prédicateurs, prélats et apôtres doivent être éprouvés. Que ceux qui se préparent à devenir docteurs, prédicateurs, prélats et apôtres soient éprouvés. On peut dire ça, doivent être éprouvés par les tentations et renforcés par la prière et la méditation dans les retraites solitaires pour y boire largement aux sources de l'esprit avant que de transmettre ensuite cet esprit aux autres. En se frottant à Lucifer, ils pourront le vaincre et toute son armée de démons avec lui. Donc, plus on se rapproche de notre Seigneur Jésus-Christ, plus on doit prouver à notre Seigneur Jésus-Christ qu'on l'aime, et donc plus notre Seigneur Jésus-Christ permet qu'on soit tenté. Alors là, les pères de l'Église font une comparaison intéressante entre la lutte du Christ et du démon avec la lutte du soleil et les nuages. Ce duel entre le Christ et le démon, en bas de la page 26, ressemble à celui du soleil avec les nuages autour de lui. Soleil qui dit « La splendeur est mienne ». Car le soleil, dit saint Ambroise, est l'œil du monde, l'agrément du jour, la beauté du ciel, la mesure des saisons, la force et la vigueur de toutes les étoiles. Comme le soleil dissipe les nuages, ainsi le Christ dissipe les tentations du démon. Comme le soleil illumine les nuages les plus sombres, ainsi le Christ, par la splendeur de sa grâce, change la désolation en consolation, les tentations en victoire, la guerre en triomphe. Par sa tentation, il nous donne l'exemple et nous enseigne à nous battre contre l'ennemi. Donc pas de victoire sans combat. Pas parce qu'on est catholique dans la tradition que ça veut dire qu'on va aller au ciel en carrosse, hein, ou en tapis roulant. Ben non, c'est pas comme ça qu'on y va, on y va en portant notre croix. Alors là, attention, il y a une deuxième paragraphe de la page 27, il y a une note importante des pères, j'ai déjà parlé. Les fidèles conscients de leur propre infirmité doivent éviter les tentations autant qu'ils le peuvent. Selon ces paroles du Christ, ne nous induisez pas à la tentation, ne laissez pas succomber à la tentation, on dit en français. Nenos inducat in tentationem. Mais quand la tentation arrive, qu'ils y résistent vaillamment en s'appuyant sur ces paroles du Christ, réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde. Alors, donc notre Seigneur Jésus-Christ a promis que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces, mais nous devons tout faire pour éviter les tentations. Parce que justement, nous sommes faibles. Le Christ fut donc tenté afin que le chrétien ne soit pas dépassé par la tentation. Pour nous montrer, voilà, j'ai été tenté pour bien vous montrer que si notre Seigneur Jésus-Christ est tenté, ben vous aussi, qui êtes mes enfants adoptifs, vous serez tentés également. Saint Ambroise ajoute, quand vous êtes tenté, sachez qu'une couronne est préparée pour vous. Enlevez les combats des martyrs, vous enlevez leur couronne. Enlevez leur tourment, vous enlevez leur béatitude. La tentation de Joseph en Égypte ne fut-elle pas la célébration de sa vertu? Le malheur de sa prison ne fut-elle pas la couronne de sa chasteté? C'est que Joseph, toujours là, c'est Joseph de l'Ancien Testament, hein, c'est pas ça Joseph, il pouvait être sa Vierge Marie. Donc, Joseph, le fils de. C'était qui ça? C'était le fils d'Isaac. Donc, Joseph, donc, avait été vendu comme esclave par ses frères en Égypte, avait été donc. Acheté par Potiphar, qui était un chambellan du pharaon, et il n'avait plus la femme de Potiphar, et la femme de Potiphar avait essayé de pêcher, faire pousser Joseph à la tentation, et Joseph avait fui pour éviter la tentation. Ensuite, elle a accusé Saint Joseph de l'avoir violé, et c'est Saint Joseph qui s'est retrouvé en prison, d'accord. Enfin, ça a permis qu'un jour il devienne vice-roi d'Égypte, et c'est lui qui a sauvé les Égyptiens de la famine. Alors, ici il y a des points intéressants aussi sur le pourquoi le Christ a-t-il jeûné. Donc ici on voit ce que disent les pères de l'Église, page 27, troisième paragraphe. Donc par sa prière et son jeûne, il s'est préparé par son œuvre de prédication, nous enseigne à en faire autant. Donc c'est un exemple. Par la faim qui suit son jeûne, il permet aux démons de tenter, et par ce même jeûne, il se renforce lui-même tout en nous enseignant à nous battre contre les tentations. Et donc c'est un exemple qu'il nous donne pour nous montrer comment nous battre dans les moments d'épreuve. C'est comme, si vous voulez, un camp d'entraînement des soldats dans une armée, où on essaye de préparer les soldats à toutes les situations dans lesquelles ils vont se retrouver. C'est pareil pour nous.
Quand on a un petit peu la tentation de se dire qu'on va y arriver par nos propres forces.
Hein. Non.
C'est ça le problème.
On ne peut pas y arriver par nos propres forces, justement. C'est absolument impossible.
Il faut lui demander sa grâce parce que.
Mais bien sûr.
On tombe à tous les coups.
Et tous ceux qui ont voulu essayer de s'en tirer par leurs propres forces, ils sont tombés lamentablement sur le nez. Hein. Donc, par la macération de sa chair, il satisfait pour Adam, qui a mangé le fruit défendu, et pour tous les péchés de gourmandise et de sa postérité. Donc ça, c'est une belle image des pères qui disent que Adam a péché par gourmandise, en fait. C'est l'orgueil, mais c'est aussi la gourmandise. Il vit que, enfin, on voit plus, c'est chez Ève. Ève prend le fruit et il vit que ce fruit était bon et délectable. Le texte du livre de Genèse. Elle vit que le fruit était bon et délectable et elle en mangea et en fit manger à son mari. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, rattrape par son jeûne Le manque d'esprit de pénitence au niveau de la nourriture qu'ont manifesté Adam et Ève et qui ont coûté tellement cher à l'humanité. Notre Seigneur se dispose lui-même à la sainte contemplation, nous montre que le jeûne donne comme des ailes par lesquelles l'âme est portée vers les choses célestes. Il nous enseigne à mépriser les choses corporelles pour le bien des plaisirs spirituels, car par la contemplation des choses divines et la joie qui découle de la contemplation, le désir des plaisirs charnels est apaisé et la pensée de la nourriture et de la boisson disparaît. Donc le jeûne, si vous voulez, aide à lutter contre les tentations de la chair. C'est pour ça que surtout les premiers chrétiens, les premiers moines, poussaient beaucoup au jeûne. Il y avait des jeûnes importants dans les monastères, justement pour bien lutter contre les tentations de d'impureté. Au témoignage de Cassien, Cassien c'est le fondateur de l'abbaye Saint-Victor à, Saint-Victor à Marseille. Au témoignage de Cassien, l'abbé Jean était tellement nourri des plaisirs de la contemplation divine qu'il ne pouvait même pas dire s'il avait mangé la veille ou non. Non, ça c'est pas le cas pour moi. Moi, est-ce que je vais manger aujourd'hui? Je suis pas comme ça. Le Christ nous inaugure le jour, le jeûne du carême, suivi par les chrétiens selon la tradition apostolique, et sanctionne ce jeûne par son exemple afin que nous donnions à Dieu la dîme de tous les jours de l'année. Hein? Donc, un jour sur dix, c'est 365 jours, pas tout à fait un jour sur dix, mais presque. Hein? Donc, un jour sur dix est donné à notre Seigneur Jésus-Christ par le jeûne.
Ah, 10% en temps.
La dîme, c'est-à-dire 1 sur 10, okay. Le dixième. De même que les Israélites ont passé 42 stations dans le désert avant d'arriver à la terre promise, nous arrivons par les 40 jours de jeûne à la fête tant attendue de Pâques. C'est qu'au début, le jeûne du carême ne durait pas 40 jours. Ça commençait en fait au premier dimanche du carême. Et donc, comme on ne jeûne pas le dimanche, donc il manquait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il manquait 4 jours. Donc l'Église a rajouté les prières du mercredi des cendres, et donc les premiers jours du carême commencent non pas au premier dimanche de carême, mais commencent 4 jours auparavant, mercredi des cendres. Donc vous voyez l'importance, on voit très bien par ces textes, donc l'importance des pères de l'Église. Ensuite, on va commencer au moins les explications pratiques, de principe, avant de passer aux pratiques justement. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, donc après avoir été, donc c'est ce que dit ici le texte, lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, le démon, à ce moment-là, s'en mêle, voyant que cet homme extraordinaire, qui a jeûné 40 jours et 40 nuits, commence à avoir faim. Il dit, tiens, il est homme normal. Donc là, on va le tenter.
Ah, il ne le tente qu'au bout,
Des
40 jours.
C'est marqué. Vous pouvez aller verset 2. Lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits.
J'ai toujours cru que c'était dès le début.
Ouais. Non. Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Donc, le diable, en fait, va pas le tenter au début, il va le tenter à la fin. Justement, lorsque la faim apparaît. La faim, F-I-N, parce que la faim, F-I-M, apparaît. Bon. Donc, on va voir que les trois, ce qu'expliquent très bien les pères de l'Église, les trois tentations du démon, donc le démon va tenter notre Seigneur Jésus-Christ avec trois choses différentes. Il va tenter d'abord proposant à Dieu de transformer les pierres en pain. Il va tenter notre Seigneur Jésus-Christ en le plaçant sur le haut du temple. Il va tenter notre Seigneur Jésus-Christ en lui proposant tous les royaumes du monde et leur gloire. Eh bien, les pères de l'Église ont expliqué que ce sont les trois concupiscences qui sont manifestées là. Donc, la sensualité, la vaine gloire, l'avarice. La sensualité, c'est la concupiscence de la chair. L'avarice, c'est la concupiscence des yeux. Et la vaine gloire, c'est la concupiscence de l'orgueil. Donc, les trois, le démon va tenter notre Seigneur Jésus-Christ de trois manières différentes pour essayer de rentrer dans son âme par une des trois concupiscences. Les trois concupiscences sont comme des failles, si vous voulez, dans l'armure de protection que nous avons autour du château, autour du donjon du château. C'est-à-dire qu'il faut bien vérifier que ces trois failles sont refermées. Hein. La plupart du temps, on se fait rouler par le démon, ou par la chair, ou par les yeux, ou par l'orgueil. Ou par deux, ou par trois à la fois, il y a des gens qui ont des problèmes avec les trois. Ça dépend des gens. Bon. Souvent, les catholiques ont un problème avec une des trois concupiscences. C'est rare d'avoir des gens qui ont un problème avec les trois. Donc le démon va chercher à savoir où est ce qu'on appelle le péché dominant. Le péché dominant, justement, lorsque le démon a découvert notre péché dominant, il arrive à savoir quelle est la concupiscence qui travaille le mieux avec nous. Bon. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, il y a deux points à comprendre essentiels. D'abord, premier point, c'est que les trois concupiscences, la sensualité, la vaine gloire, l'avarice, c'est-à-dire les yeux, l'orgueil et la chair, l'orgueil et les yeux, vont correspondre au mensonge du démon. Lorsque le démon a voulu rouler Adam et Ève, rappelez-vous les mensonges du démon, donc il y en a eu quatre, Et là, les pères de l'Église montrent bien, par exemple, que la vaine gloire va correspondre à la mensonge du démon, vous serez comme des dieux. Et donc, contre cette vaine gloire, il faudra utiliser la prière. Par l'avarice, donc, l'avarice va reprendre le deuxième mensonge, un autre mensonge du démon, vous saurez le bien et le mal. C'est-à-dire, vous allez décider par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, contre cette avarice, le catholique va user l'aumône. D'accord ? Bon, vous voyez, on retrouve dans les trois concupiscences qui sont présentées par les trois tentations du démon face à notre Seigneur Jésus-Christ, on retrouve le jeûne, la prière, l'aumône. Le jeûne contre la sensualité, la prière contre la vaine gloire, l'aumône contre l'avarice. D'accord ? Tout ça, tout simplement pour bien montrer, si vous voulez, que notre Seigneur Jésus-Christ permet ces trois tentations sur lui pour vaincre complètement les mensonges du démon. Rappelez-vous les quatre mensonges du démon, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous serez le bien et le mal. Donc les deux plus graves, c'est les deux dernières. Vous serez comme des dieux, vaine gloire, vous serez le bien et le mal. Si vous avez décidé par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal, c'est la liberté de conscience, c'est ça. Je décide par moi-même ce qui est bien et ce qui est mal, et je ne laisse pas notre Seigneur Jésus-Christ décider pour moi. Donc, le démon fut vaincu. Attendez, est-ce que j'en suis là ? Bon, par l'avarice. Car l'avarice n'a pas seulement l'argent pour objet, mais aussi la grandeur, l'élévation, lorsqu'on désire les désirs et qu'on les recherche avec excès. Donc,
l'ambition.
Le démon. Hein ?
L'ambition, quoi.
C'est ça, voilà. Le démon fut. Donc, il prend avarice au sens large. C'est l'ambition des biens de ce monde. Le démon fut vaincu cette fois par le second Adam. Il avait roulé le premier Adam, il va être vaincu par le second Adam, par les mêmes moyens qu'il avait rendu victorieux du premier. Il tenta le Seigneur. Par la sensualité, donc c'est la première tentation. Dites que ces pierres se changent en pain. Par la vaine gloire, deuxième tentation, si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas. Par l'avarice, troisième tentation, je vous donnerai toutes ces choses que vous voyez, si vous jetez à genoux, vous m'adorez. Donc, encore une fois, on retrouve les trois choses. Contre la sensualité, le jeûne, la vaine gloire, la prière, l'avarice, l'aumône. Donc, Élie et Moïse ont bien jeûné pendant 40 jours, cependant, ils n'étaient que des hommes. Oui, sans doute, ils jeûnaient, mais ils souffraient du jeûne. Tandis que Jésus-Christ n'éprouva aucun sentiment de la faim pendant ces 40 jours, mais seulement après. Avoir faim, supporter la faim, l'homme le peut par la patience. Mais il n'appartient qu'à la nature divine de ne pas éprouver le sentiment de la faim. Et donc, on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, montre par cette tentation l'exemple qui donne l'exemple pour nous apprendre à lutter contre les tentations. On va finir en haut de la page 28. On va terminer avec les quatre premiers versets, chapitre 4 de Saint Matthieu. Donc mystiquement, chaque chrétien fidèle vit par la parole de Dieu, en recevant le Christ qui est le Verbe éternel de Dieu et qui, devenu homme, nous nourrit par sa doctrine, sa grâce et son exemple. En le recevant, nous recevons sa chair et sa divinité dans la Sainte Eucharistie. Dieu donne les paroles de la Sainte Écriture, les prières et les saintes inspirations qui le nourrissent en illuminant et enflammant notre esprit. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, mystiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ nous apprend par ses moyens de lutte contre les tentations à lutter dans notre propre âme. On reprend avec Saint Grégoire ici, il admire ici la douceur du Christ. Donc c'est tropologiquement au sens de que représente cette tentation pour nous. Considérons la grandeur de la patience de Dieu, la grandeur de notre impatience. Si nous sommes blessés ou provoqués par quelque injure, nous sommes tout de suite mus par la colère et cherchons à nous venger dès que possible, ou menaçons de le faire si nous ne pouvons pas nous venger. Le Seigneur endure l'attaque du démon et ne lui répond que par les paroles de douceur, de supportant celui qui l'aurait pu punir. Le Seigneur Jésus-Christ aurait pu faire un grand miracle et prouver au démon qu'il était Dieu, il aurait eu la paix. Non, il n'a pas voulu le faire parce qu'il savait que son Père avait décidé à ce que nous soyons tout simplement, est-ce qu'il meurt sur la croix pour nous racheter. Voilà, donc on va arrêter là. Donc le mardi prochain, si Dieu veut, prochain cours donc d'exégèse. Donc aujourd'hui on est le 24 2020. 2018. Alors, toujours pareil, essayons de, pour ceux qui travaillent sur Internet, de vous obliger à relire le polycopier. Et éventuellement, pour ceux qui ont un peu de temps, sur les personnes âgées, les personnes qui sont malades, qui ont un peu de temps, ben, carrément de réécouter les conférences. Souvent, je conseille, il y a beaucoup de gens me l'ont dit, parce que là, on comprend mieux les conférences quand on les écoute deux fois. Il y a des gens qui sont très doués, qui arrivent à se faire comprendre une seule fois, moins pour deux, trois fois. Ça dépend des gens. D'accord ? Donc, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Jérôme,
priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.